RFI, 19h, temps universel, 21h à Paris, 22h à Tel Aviv et Jérusalem. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition internationale du vendredi 13 juin. Au sommaire, tous les Israéliens ont reçu l'ordre de rester dans des abris anti-aériens. L'Iran bombarde à l'heure actuelle Israël. D'épais nuages de fumée s'élèvent au-dessus de Tel Aviv et Jérusalem après des tirs de missiles iraniens. Nous sommes en Israël dans un instant. Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron, le président français, a déclaré ce soir que l'Iran porte une lourde responsabilité dans la déstabilisation de toute la région. Nous serons par ailleurs en Turquie pour qui son président Erdogan, les attaques d'Israël tôt ce matin contre l'Iran sont un droit contraire au droit international. Dans ce journal aussi, les États-Unis qui se préparent par ailleurs demain à de nouvelles manifestations anti-Donald Trump. Et puis nous prendrons des nouvelles de Blatten, du nom de ce village suisse qui a été détruit la semaine dernière par l'effondrement d'un glacier.
Adrien Delgrange.
La riposte iranienne ne s'est pas fait attendre. D'abord verbal, le régime sioniste a commis une faute impardonnable qui le réduira à néant, dit le guide suprême iranien. Et à l'heure actuelle, des dizaines de missiles iraniens visent Israël. Nous sommes en direct de Jérusalem avec vous, Michel Paul, notre correspondant. Michel, des explosions sont entendues à l'heure actuelle autour de vous.
Oui, c'est toute une série d'explosions. En fait, ce sont deux salves de missiles qui se sont abattues sur Israël. Et depuis une heure environ, les Israéliens, des millions d'Israéliens, la totalité en fait de la population sont dans des abris après avoir été prévenus par des sirènes et des systèmes liés à leur téléphone mobile. Et il y a eu des missiles qui se sont abattus dans la région de Tel Aviv, à Tel Aviv même, un bâtiment a été touché de plein fouet, et également dans une des banlieues de Tel Aviv à Ramat Gan. Mais il y a également des tirs sur la région de Jérusalem où je me trouve en ce moment. On a très bien entendu les boums, mais on a pu voir dans le ciel les interceptions et les débris des missiles tombés et passés, d'autres missiles qui sont passés au-dessus de nos têtes en compagnie de quelques drones qui étaient également présents sans qu'on puisse vraiment déterminer leur origine. Et à l'heure actuelle, donc, l'armée demande à la population israélienne de rester encore dans les abris en attendant de vérifier quelle est l'étendue des dégâts et surtout de voir si les Iraniens continuent à tirer en direction d'Israël. À l'heure actuelle, on fait état de 7 blessés, mais c'est un premier bilan qui n'est certainement pas définitif.
Michel Paul, en direct de Jérusalem pour RFI. Rappelons que tôt ce matin, Israël a bombardé l'Iran. Depuis, de nombreux pays ont réagi, comme la Turquie, voisin de l'Iran, qui a fermement condamné ces frappes aériennes israéliennes. Ankara dénonce une violation flagrante du droit international et une provocation d'Israël dont le but serait de déstabiliser toute la région. Les précisions d'Anand Lower.
Le président Recep Tayyip Erdogan, dans un communiqué, dénonce des attaques odieuses et une provocation flagrante au mépris du droit international. Le chef de l'État turc estime qu'avec ses frappes contre l'Iran, Israël a porté, je le cite, à un stade très dangereux sa stratégie visant à noyer notre région dans le sang, les larmes et l'instabilité. C'est le point important pour comprendre la réaction d'Ankara. La Turquie, qui est un voisin de l'Iran, ne souhaite pas que Téhéran obtienne l'arme atomique. Elle avait d'ailleurs accueilli le mois dernier des négociations sur le nucléaire entre l'Iran et des puissances européennes. Mais elle ne veut pas davantage d'une guerre dans sa région dont elle subirait les effets. Or, elle estime que c'est l'objectif du gouvernement de Benjamin Netanyahou, déstabiliser la région pour ses propres intérêts, pour reprendre les termes d'un communiqué du ministère des Affaires étrangères. La Turquie n'appelle pas, comme d'autres, les deux parties à la retenue. Elle appelle Israël à cesser immédiatement ses actions agressives et la communauté internationale à agir pour l'empêcher d'aller plus loin. La communauté internationale doit mettre un terme au banditisme israélien, ce sont les mots, là encore très forts, de Recep Tayyip Erdogan. Anand Lohr, Ankara, RFI.
Une attaque israélienne tôt ce matin au retentissement mondial. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, exhorte Israël d'arrêter. De son côté, Marc Rutte, secrétaire général de l'OTAN, déclare que les frappes sont une action unilatérale unilatérale d'Israël, avant d'ajouter qu'il est crucial pour de nombreux alliés, y compris les États-Unis, d'œuvrer en ce moment à la désescalade. Au nom de la France, ce soir, Emmanuel Macron déclare que l'Iran porte une lourde responsabilité dans sa déstabilisation de toute la région. Un peu plus tôt dans la journée, après ces frappes israéliennes sur l'Iran, le Premier ministre François Bayrou a pris la parole.
Et ce que la France dit, c'est les États de la région, y compris Israël, ont le droit de se défendre et d'empêcher que le pire des accidents puisse arriver dans les temps qui viennent. Si on vous dit que c'est une situation historique facile, ne le croyez pas, c'est un défi terrible. Mais on ne peut pas faire comme s'il ne se passait rien du côté de l'Iran. Et de l'Iran militaire avec la bombe nucléaire et de la société de l'Iran avec le sort qui est fait aux femmes. Tout ça révolte les principes qui sont les nôtres.
Voilà sur ce qu'on pouvait vous dire à l'heure actuelle, sachant que l'information est très évolutive et qu'à l'heure actuelle, c'est l'Iran qui riposte avec des dizaines, voire des centaines de missiles qui visent Israël.
RFI, la radio du monde.
Aux États-Unis, alors que le pays se prépare à de nouvelles manifestations demain, samedi, dans l'ensemble du pays contre la politique de Donald Trump, hier, un sénateur démocrate a été expulsé de force d'une conférence de presse. Un incident qui illustre encore les tensions entre démocrates et républicains au sujet des arrestations et expulsions de sans-papiers. Loubna Anaki est à New York.
Les images de l'incident ont tout de suite fait le tour des médias américains, déclenchant une nouvelle passe d'armes entre républicains et démocrates. Sur la vidéo, alors que Kristine Noem, la secrétaire à la sécurité intérieure, prend la parole pour défendre les arrestations massives de sans-papiers, on voit le sénateur Alex Padilla l'interrompre. Je suis le sénateur Alex Padilla et j'ai des questions pour la secrétaire, dit-il, avant d'être immédiatement poussé dehors par des agents, placé au sol, puis menotté. Un peu plus tard, le sénateur de Californie s'est exprimé devant les caméras.
Si c'est comme ça que l'administration répond aux questions d'un sénateur, on ne peut qu'imaginer comment il traite les travailleurs sans papier dans les fermes, dans les cuisines, partout à travers Los Angeles et à travers la Californie.
Kristine Noem a expliqué que les agents avaient agi ainsi, pensant qu'il s'agissait d'un perturbateur. Elle estime que le sénateur a eu, je cite, un comportement indigne de son statut et précise tout de même qu'elle s'est entretenue avec lui quelques minutes après la conférence de presse. De leur côté, les démocrates estiment que la façon avec laquelle leurs collègues a été traitée, je cite, scandaleuse. Certains appellent même à la démission de la secrétaire à la sécurité intérieure. Loubna Anaki, New York, RFI.
Et sur le continent européen, un peu plus de deux semaines après l'effondrement d'un glacier sur un village suisse, passait l'émotion. Le temps est désormais à la reconstruction car personne là-bas n'ose imaginer abandonner les habitants de Blatten. RFI Genève, Jérémy Lanche.
Après avoir investi le Lochental en masse, les médias du monde entier ont quitté ce petit bout de Suisse ces derniers jours. Ici, la vie a repris son cours. Dans la rue, les enfants marchent tranquillement vers l'école sans être importunés par les caméras et les habitués reviennent aux terrasses des cafés parce qu'il faut bien aller de l'avant. Fernando Lehner habite la vallée. Il est aussi membre de la cellule de crise du Lochental.
Naturellement, nous voulons reconstruire Blatten. La question maintenant, c'est où est-ce que c'est possible? La priorité absolue, c'est de refaire la route et on y travaille déjà. Il faut pouvoir rétablir rapidement les infrastructures, ramener l'électricité, l'eau et tout le reste.
De partout dans le pays, les dons affluent pour venir en aide aux sinistrés. Le canton du Valais a débloqué 10 millions de francs suisses pour Blatten. Mais pas question de reconstruire sans prendre en compte l'impact du réchauffement, plaide le président du gouvernement local, Mathias Reynard.
Il n'est pas du tout certain qu'on puisse reconstruire le village tel quel au même endroit. Le faux débat aujourd'hui, ce serait de dire « Mais est-ce que Blatten, ça ne serait pas quand même arrivé sans le dérèglement climatique ?» et autres. Mais bon Dieu, ouvrez les yeux. On passe notre temps à sauter d'une catastrophe à l'autre. À côté de Blatten, il y a plein d'autres petits Blatten.
Avec 10% de son territoire recouvert par des glaciers qui fondent à vitesse grand V, le Valais sait qu'il doit se préparer à la multiplication d'événements extrêmes. Jérémy Lange, dans la vallée du Lochental, RFI.
Enfin, je vous rappelle cette principale information à l'heure actuelle. Tous les Israéliens ont reçu l'ordre de rester dans des abris anti-aériens. L'Iran bombarde Israël. D'épais nuages de fumée s'élèvent au-dessus de Jérusalem et Tel Aviv. Et à l'instant, les pompiers israéliens rapportent des incidents majeurs après ces attaques de missiles. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. RFI à Paris, 21h10.